Bonjour, je suis votre ami, votre bien-aimé, le révérend Samuel Wabantu. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement profond, très utile, qui est intitulé « L'Église selon la pensée de Dieu ». Le mot « Église » est connu depuis des âges dans l'humanité, au travers de plusieurs groupements religieux, plusieurs dénominations. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, et ceux-là qui veulent bien s'intéresser à la chose, nous voulons apprendre ce que c'est l'Église selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu exprimée dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Car ce que Dieu a voulu, Dieu l'a exprimé et Dieu a inspiré, selon qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Ce que Dieu a pensé, il a exprimé. Et dans son expression, Dieu a inspiré aux hommes au travers des âges, découché par écrit. Et cela s'est étendu dans plusieurs siècles, plusieurs dizaines d'années. Les gens de différentes conditions sociales, de différents milieux géographiques ont écrit dans la même pensée. Depuis Moïse jusqu'à Jean, l'apôtre, de Genèse à Apocalypse. Et ces écrits ont été recueillis, ce qui forme la Bible, que nous, les chrétiens, nous considérons à juste titre comme étant la révélation de la pensée de Dieu, la parole de Dieu révélée à l'humanité pour son salut. Et nous allons nous plonger dans les Écritures saintes pour comprendre ce que Dieu pense de l'Église. Chaque société a sa manière de voir, de comprendre l'Église. L'Église a une signification en Russie, là où il y a l'Église orthodoxe. Et cette signification est autre, par exemple au Brésil, qui est la plus grande nation catholique du monde. Et la pensée, c'est que l'Église est différente, par exemple en Amérique ou bien en Afrique. Mais nous voulons voir, nous, pour être dans la justesse, dans nos pratiques, dans notre foi, dans notre dévotion, nous voulons plonger nos regards dans la parole de Dieu et essayer de comprendre avec l'aide de l'Esprit du Seigneur ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais commencer par vous dire que l'Église est l'institution la plus puissante que Dieu a créée sur la terre. Il y a plusieurs institutions. Le mariage est une institution. Mais la chose la plus puissante que Dieu a instituée sur la terre, avec des capacités que le Seigneur a dotées à cette institution, il n'y a aucune institution qui ressemble, qui est dotée comme l'Église l'est. Même les gouvernements humains, les nations, ne sont pas équipés comme Dieu a équipé l'Église. Et la référence biblique de base que nous utiliserons pour partager la parole du Seigneur qui concerne l'Église selon la pensée de Dieu, cette référence de base se trouve dans le premier épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, le verset 14 et 15. La Bible déclare: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ça, c'est la plus belle déclaration faite dans la Bible concernant l'Église. C'est pourquoi j'ai voulu retenir ce passage pour être une base scripturaire pour notre enseignement d'aujourd'hui. Paul, parlant à Timothée, qui est son fils légitime dans la foi, et Timothée n'était plus un enfant parce que Timothée avait grandi et on lui avait confié l'Église d'Éphèse. Timothée était devenu le pasteur. Paul, au loin, l'épître de Paul à Timothée et à Tite sont des épîtres pastoraux que Paul, l'apôtre, écrit aux responsables, aux pasteurs. Ce n'est pas aux fidèles, ce n'est pas aux novices, ce n'est pas aux païens, mais à quelqu'un qui est censé s'y connaître dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui est déjà dans le ministère et dans la vie dépend déjà de sa manière de se conduire avec Dieu, du travail qu'il fait avec le Seigneur. Quelqu'un qui a le souci du travail du Seigneur, de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est à cette personne, dans ce même souci, de bien comprendre ce que c'est la volonté de Dieu pour ce travail, dans le même souci, de bien faire le travail selon la volonté de Dieu, parce que l'Église est l'institution de Dieu. C'est ce que nous devons faire, nous devons nous référer à Dieu à chaque instant. Et Paul dit à Timothée, le but de cette épître, je t'écris ces choses dans l'espérance de venir bientôt vers toi. Je suis ton père spirituel, ton maître. Je t'instruis en ce qui concerne le ministère, de la même manière que j'ai été instruit par le Seigneur et par ceux qui m'ont précédé. Mais au cas où je tardais à venir, j'aimerais que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La première appellation, le premier synonyme donné à l'Église dans ce passage, c'est la maison de Dieu. Mon église à moi, l'église que je conduis, dont je suis le pasteur responsable, c'est la maison du roi. Pour que les gens sachent qu'en entrant dans l'église, ils se retrouvent dans la maison de quelqu'un, mais pas n'importe qui. Et c'est à peu près cela que Paul dit à Timothée. Afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Ce que j'ai appris depuis mon enfance, c'est que on est libre de faire ce qu'on veut chez soi. Mais quand on entre dans la maison d'une tierce personne, il y a un comportement requis, un comportement adéquat qui doit démontrer ton respect et ta considération au propriétaire de la place. Toute personne sensée, toute personne bien éduquée a de la retenue quand tu se rends chez une autre personne. L'Église appartient à quelqu'un. Et Paul dit que l'église, c'est la maison. La maison de Dieu. C'est Dieu qui établit les règles dans sa maison. Il en a le droit. Si je suis habitué à m'asseoir et à mettre les pieds sur la table chez moi, dans ma maison à moi, quand je suis invité chez mon ami, je ne peux pas m'hasarder sous prétexte que c'est dans mes habitudes. Je ne peux pas m'hasarder à aller mettre également automatiquement mes pieds sur la table. On fait ce qu'on veut chez soi. Mais quand on arrive dans la maison de quelqu'un, on respecte les règles établies par cette personne. Paul commence à instruire Timothée. Tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Et Paul continue. La maison de Dieu. Paul appelle l'église, l'église du Dieu. Mais il ne s'arrête pas là, l'église du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous entrez dans la maison, quand nous allons dans les lieux de culte, dans les temples, généralement chez les chrétiens, protestants surtout, il n'y a pas vraiment de statues, de statuettes dans les temples, dans les lieux de culte. Il peut y avoir quelques images, quelques photos. Mais dans des temples, comme les temples catholiques, généralement, ou bien d'autres temples, il y a des images, il y a des icônes, il y a des statues, il y a des photos, il y a de toutes sortes, formes d'œuvres d'art qui les aident, n'est-ce pas, dans leur dévotion religieuse. Les images ne réagissent pas. Les statues n'ont aucun pouvoir. Au cas où les gens seraient habitués à entrer dans le temple et à considérer les images inanimées, Paul lui dit à Timothée, même si vous vous renseignez dans un endroit où il y a une représentation quelconque, c'est peu probable parce que Paul, c'est vraiment quelqu'un qui a été élevé dans le judaïsme. Et dans le judaïsme, il était interdit de représenter Dieu ou la divinité ou ses anges sous quelque autre manière. Sauf pour les cas, bien sûr, où Dieu avait expressément ordonné. Mais généralement, comme l'église chrétienne au début n'avait pas des endroits où pour se réunir, des églises à eux, ils se réunissaient des fois dans des maisons, des fois dans des catacombes, c'est ce qu'on raconte. Et même dans des mausolées parce qu'ils étaient persécutés. Et Paul dit à Timothée, écoute, l'église qui est la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Les statuettes sont inanimées. Les statuettes n'ont pas de vie. Les idoles n'ont pas de vie. Mais quand tu entres dans l'église, sache que Dieu est vivant. Cela veut dire, il est capable de se mouvoir, capable de se manifester, capable d'écouter, de parler, d'agir pour bénir ceux qui viennent le chercher, pour répondre à ceux qui lui adressent des prières, pour soutenir ceux qui sont faibles et qui viennent dans sa maison, pour relever ceux qui tombent. Il est capable d'agir, de toucher, de transformer la vie des gens qui viennent dans sa présence. David dit, « Heureux le peuple que l'Éternel choisit et admet dans sa présence. » Jésus a dit, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. » Et le Seigneur est là, notre Dieu est vivant pour bénir, encourager, fortifier. Mais il est également vivant pour frapper et pour punir les fauteurs de troubles dans sa maison, dans son église. Dans l'église, Dieu ne fait pas que bénir, Dieu aussi réprimande. Dans l'église, Dieu ne fait pas que donner la vie. Quelqu'un peut avoir également la mort, être frappé de mort dans la présence de Dieu. Ça s'est passé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament également. Quelqu'un pouvait mourir dans la présence du Seigneur. Et toi, Timothée, qui est le conducteur du peuple, tu dois savoir ces choses pour être capable de les transmettre avec fidélité. Les gens doivent venir dans la présence du Seigneur avec révérence, en sachant qu'ils entrent dans la maison de quelqu'un qui est vivant. Vivant pour intervenir en leur faveur, pour les bénir, pour les toucher, pour les fortifier, pour les délivrer, mais également pour punir, pour réprimander, pour corriger, pour frapper, et même si cela est nécessaire, pour tuer. Ça n'a rien à voir avec le pasteur qui va réprimander ou bien le conducteur. Non, Dieu lui-même est vivant. Si le pasteur est aveugle, Dieu qui a créé les cieux, il voit. Si le pasteur n'entend pas le responsable de l'église, Dieu qui a créé les oreilles, il entend. Si le pasteur est inactif à cause du désordre qu'il y a de l'église, Dieu, lui, il n'est pas inactif et il n'est pas distrait. C'est un Dieu omniscient qui connaît tout, qui est partout à la fois et qui a tout le pouvoir d'agir dans la vie de ceux qui viennent se présenter devant lui et même dans la vie de toute l'humanité. Il est omnipotent. Et dans la grâce du Seigneur, je veux que toi, Timothée, tu comprennes ces choses pour être capable de le transmettre à l'église. Bien-aimé, quand nous regardons nos églises, nos assemblées aujourd'hui, les gens ont mis en exergue la notion de liberté dans la présence de Dieu. En disant, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Tu n'es pas libre de maudire Dieu dans la présence du Seigneur. Il y a la liberté de faire ce qui est en accord avec la parole de Dieu. La liberté ne veut pas dire le libertinage. Il te laisse le pouvoir de faire ce qui est en désaccord avec sa parole, mais tu dois savoir que dès que tu optes pour faire ce qui est en désaccord avec lui-même, tu entres en conflit direct avec lui. Parce que Dieu est toujours en accord avec sa parole. Dans les églises, les gens viennent comme ils veulent, font ce qu'ils veulent, ils confondent l'église avec leur chambre, ils confondent l'église avec leur salon, ils confondent l'église avec leur lieu habituel de travail ou de job. Les gens viennent et se compromettent. Ils n'ont aucun respect pour la maison de Dieu. Tout ce qui les concerne, c'est le regard du pasteur. Ça fait près de 15 ans que je suis prédicateur et 11 ans que je suis pasteur consacré. Dans mon expérience, après avoir voyagé dans plusieurs villes, en Afrique, ici en Europe et en Amérique, j'ai pu constater le même problème partout. Des comportements inappropriés dans l'église de Dieu. Les gens font tout pour s'attirer les regards favorables des responsables. Et dès que le responsable tourne le dos, c'est un comportement inapproprié qui s'affiche. Sans entrer dans les détails. Mais Paul rappelle à Timothée, c'est Dieu qui est vivant dans l'église. Et Dieu voit, il n'est pas mort. Dès que tu entres dans l'église, tu entres dans son cercle d'action privilégié. Dieu agit dans le monde, mais la manière dont Dieu agit dans l'église est encore plus puissante. Parce que Dieu a mis un cadre légal dans l'église où il peut déployer sa puissance librement. Dans la définition de l'église, nous allons voir pourquoi. Et Paul continue dans sa définition. Il dit la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui, ça veut dire que l'église a pour base, en ce qui concerne la vérité de Dieu, l'église s'appuie sur la parole de Dieu Et la parole de Dieu elle-même s'appuie sur l'Église pour établir sa base sur la terre. Quand Dieu veut déposer sa vérité dans le monde, Dieu ne la dépose pas sur une montagne. Il ne nous enverra pas monter sur la montagne. Fini cette histoire parce qu'il y a une colonne et un appui de la vérité maintenant. Comme il avait demandé à Moïse de monter sur le mont Sinaï pour aller chercher la vérité de Dieu. Moïse est monté pendant 40 jours, 40 nuits sur le mont Sinaï. Dieu a parlé là sur la montagne. C'était un spectacle effroyable, un spectacle éblouissant, qui est resté mémorable. Un spectacle qui a fait peur aux enfants d'Israël, sorte qu'ils ont dit, en tout cas, que Dieu ne nous parle plus de la sorte. Moïse, toi, parle-nous de la part de Dieu, nous écouterons. Il y avait des tonnerres. Il y avait des éclairs au sommet de la montagne qui étaient devenus fumantes, comme un volcan. Qui peut rester au pied d'un volcan en ébullition, en éruption? Et Moïse était resté là-bas, il y avait la fumée, les éclairs, et les gens entendaient des voix. Quand Moïse entendait la loi de Dieu qui sortait de la bouche de Dieu, sur la terre, on entendait comme un grondement de voix, des tonnerres. Et Dieu a parlé. Dieu ne nous enverra plus sur la montagne. Dieu peut se manifester sur une montagne, c'est vrai. Mais Dieu ne nous enverra plus sur la montagne pour aller chercher sa vérité. Je vais déposer ma vérité sur telle montagne. De même à l'époque de Jésus-Christ. La femme a dit à Jésus, la femme dans Jean chapitre 4, Jésus est la femme samaritaine. La femme a dit à Jésus, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem, mais nous ne savons qu'il faut aller adorer à la montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle parlait du mont Garizim. Non, c'est plus sur ce mont-là, parce que vos pères ont adoré sur cette montagne, sur le mont Garizim, qu'il faut monter là-bas pour aller chercher la vérité de Dieu, que la vérité s'y trouve. Ce n'est ni sur cette montagne-là, et ce n'est même ni à Jérusalem. Que vous adorez le Père, dit le Seigneur. Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait que la naissance de l'Église était imminente. Et aujourd'hui, quand Dieu dépose sa vérité, c'est dans l'Église que le Seigneur la dépose. Et l'Église, étant la colonne et l'appui de la vérité, ça veut dire que l'Église est le détenteur de la vérité et l'Église est le défenseur de la vérité. Nous détenons la vérité révélée de Dieu. Et nous sommes là pour défendre cette vérité. C'est auprès de l'Église que les gens de la terre doivent venir pour connaître la vérité révélée de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Paul dit l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et cette vérité n'est pas la vérité humaine. N'est pas la vérité émanant des hommes politiques. N'est pas la vérité émanant de nos coutumes ou de nos traditions. N'est pas une vérité décidée par consensus. Ce n'est pas une vérité cachée que nous devons aller chercher dans les sociétés secrètes, dans des sectes, dans des regroupements secrets qui se disent connaître la vérité cachée aux gens depuis des siècles. Non, ce n'est pas de ces vérités-là. Mais l'Église détient la vérité de Dieu, cette vérité qui se vit et qui se demande. La vérité sur le pardon de péché. La vérité sur la résurrection des morts, la vérité sur la guérison divine, la vérité sur la puissance des transformations, la vérité sur la gloire de Dieu révélée à l'Église, la vérité sur la prophétie, où Dieu parle en avance, il donne des révélations sur les choses exactes qui doivent arriver. Et avec le temps, ces choses arrivent exactement telles qu'elles ont été prédites par les gens loin de Dieu. Et cette vérité, Dieu la dépose dans l'Église. Les vérités qui est en accord avec la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. L'Église détient cette vérité que Dieu lui a confiée. Elle est la colonne et l'appui, c'est-à-dire l'Église défend cette vérité. Elle doit défendre cette vérité devant le mensonge et contre toute forme d'erreur. L'Église doit défendre la vérité contre les hérésies, contre les doctrines des démons, des doctrines hérétiques, des doctrines qui ne conviennent pas avec la vérité de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. Il y a des gens qui se lèvent avec des prophètes ou des nouveaux prophètes et qui viennent contredire même ce que le Christ a dit en disant par exemple non, Jésus n'est pas réellement le Christ, ou en disant que non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, ou en disant que Jésus-Christ en réalité n'est pas mort à la croix. Celui qui est mort à la croix, là, c'est une autre personne qu'on a substituée à la place de Jésus. Il y a des mouvements religieux qui sont nés après, mais nous, nous connaissons la vérité de Dieu. Dieu a laissé les hommes et les femmes libres de croire ce qu'ils veulent. Mais la vérité de Dieu est unique. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'église, c'est la colonne et l'appui de Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ pose les pieds pour pouvoir agir, bénir et toucher le monde. Nous défendons cette vérité non seulement devant les mensonges et les erreurs, mais aussi devant les hommes et devant les démons, les serviteurs du diable. Il y a des hommes qui sont dans l'erreur à cause des mouvements philosophiques, des pensées philosophiques qu'ils émettent, comme Karl Marx qui avait dit que Dieu n'existe pas. Jean qui a dit que si Dieu existe, donc l'homme n'existe pas parce que l'homme, or, comme l'homme existe, donc Dieu n'existe pas parce que l'homme est, si Dieu existait, l'homme ne serait plus libre. Or, moi, je dois être libre de ma conscience, libre de mes mouvements, de mes actions. Et comme moi, j'existe bien, ça veut dire qu'en tout cas, Dieu n'existe pas. Il ne faut pas avoir les yeux physiques pour voir Dieu, à moins qu'il veuille se manifester physiquement. Contre les erreurs de jugement, d'appréciation, d'analyse humaine, mais il y a également des erreurs qui ne viennent pas simplement de l'intelligence des hommes. Ce sont des erreurs ou bien des mensonges orchestrés par le diable. Et il aide à véhiculer ces mensonges au travers des démons et au travers de ses serviteurs humains. Il y a des hommes qui servent le diable volontairement. Il y a ce qu'on appelle des satanistes. Ce ne sont pas des gens qui sont avec le diable comme par hasard. Non, ils ont voué un culte au diable de la même manière que nous vouons un culte à Dieu. De même manière que nous nous attelons à répandre la parole, la pensée de Dieu, eux, ils s'attellent à répandre la parole et la pensée du diable. De même manière que nous mettons les moyens nécessaires financiers pour répandre l'évangile, vulgariser la parole de Dieu, ils mettent les moyens pour répandre les paroles du diable, vulgariser la pensée du diable. Le voilà le fait que pour dérober, égorger, détruire, vulgariser le mensonge, vulgariser la destruction, la haine, la tuerie. En ces temps du terrorisme, de ces barbaries, où les vies des gens sont prises. Mais il y a des gens qui financent ce genre de mouvement. Il y a des gens qui financent ce genre d'action. Des complots que le petit peuple n'a même pas entendu parler. Ou des multinationales financent des projets qui peuvent amener la mort, la désolation dans des régions ou bien dans des pays tout entiers. Les femmes meurent, les enfants sont tués, les gens sont déportés, chassés de leur territoire pour que ces gens-là fassent du profit. Et il y a des gens qui financent. Là où il y a la mort, la destruction, sachez que ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est en action. Et il y a des gens, sans se prononcer, ils servent le diable, ils savent, avec leurs moyens, ils répandent la mort au lieu de la vie parce que Jésus répand la vie. Ils répandent la désolation au lieu de répandre la paix parce que Jésus répand la paix. Donc l'Église est là pour défendre la vérité et défendre cette vérité contre les serviteurs visibles et invisibles du diable. L'Église est là pour parler pour la vérité et en faveur de la vérité, afin que les pensées, les principes de la vérité se répandent. Et dans la grâce du Seigneur, dans cet enseignement, nous allons avoir 7 points que nous allons étudier dans cet enseignement qui concerne l'Église selon la pensée de Dieu. Le premier point, c'est la définition de l'Église. Le deuxième point, nous verrons l'origine de l'Église. Le troisième, nous verrons la manifestation de l'Église. Le quatrième point, nous étudierons le fondement de l'Église. Le cinquième point, nous étudierons la mission de l'Église. C'est un point très important. Et le sixième point, nous étudierons les fonctions dans l'Église. Et puis le septième point, nous étudierons les dons spirituels dans l'Église. Définition. L'Église vient du mot grec « ecclésia ». Vous savez que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en majorité en grec. Et Ecclésia est un mot grec qui signifie simplement assemblée. Donc l'église est une assemblée. Mais pas n'importe laquelle. Le mot ecclésia lui-même vient d'un verbe grec, un verbe composé. C'est le verbe ekaleo. Ce verbe signifie appeler hors de. Il y a le préfixe ek qui veut dire hors de, et puis kaleo qui veut dire appeler. De l'église, c'est donc une ensemble de personnes appelées hors du monde, hors du péché, pour appartenir à Dieu. Et kaleo, appelé hors d'eux. Dans l'ancien temps, il y a des gens qui se rassemblaient. Toute forme d'assemblée s'appelait église en ces temps-là. Maintenant, quand on parle de l'église, c'est spécifiquement un mouvement religieux. Mais à ce temps-là, non, c'était toute forme d'assemblée politique, culturelle. Les gens qui se mettaient ensemble, et souvent, ils se rassemblaient hors de la ville pour une réunion, pour une manifestation, pour un besoin quelconque. On les appelait ecclésia, ceux qui sont appelés pour aller hors, en dehors, se mettre à côté pour le besoin de la cause. Et le Seigneur a utilisé ce mot pour définir son assemblée à lui, le regroupement de personnes selon la pensée qu'il lui a eue. Mais les gens ne sont pas appelés hors de la ville, non. C'est plus profond que ça. Ces gens sont appelés hors du monde. Ces gens sont appelés hors du péché pour appartenir à Dieu. C'est ça l'église de Dieu, selon la pensée de Dieu. Quand on est encore dans le monde, quand on est encore dans le péché, on n'est pas dans l'église et on ne peut pas appartenir à l'église. Appelez ça toute forme de regroupement, appelez ça un club, appelez ça tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'église. Dans le sens spirituel du terme, tel que le Seigneur s'en est approprié. Parce qu'il est le premier dans le Nouveau Testament à avoir utilisé le mot église pour parler de la communauté. Dans la grâce du Seigneur, le Seigneur dans sa vision, il veut un groupe de gens. Mais dans sa pensée, il attire ces gens hors du monde. Il les attire hors du péché. Et il les met à part. L'église, c'est un regroupement des gens qui sont sanctifiés. Ça veut dire les gens qui sont mis à part. Cette assemblée de sanctifiés, mis à part. Et l'église s'identifie toujours par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. Dans mes voyages, quand nous sommes en Afrique, moi je suis d'origine africaine, en général, nous avons la société africaine en général est homogène. Peu importe les tribus, mais nous étions tous là ensemble. Mais dès qu'on sort de son pays, on se retrouve dans l'immigration. C'est quelque chose que je n'ai pas eu à expérimenter quand j'étais chez moi. Parce que nous étions tous là, il y avait plusieurs églises. Ce qui nous différenciait, c'était pas la langue. Nous avions tout presque en commun. Mais quand on est dans ces pays étrangers, j'ai pu remarquer que les Congolais se réunissent entre eux. Et de l'autre côté, vous avez l'église des Portugais. Et là-bas, c'est l'église des Rwandais, c'est le pasteur rwandais. Les autres membres également sont rwandais. Et de l'autre côté, vous avez l'église des Américains. Et plus grave, aux États-Unis, les églises sont pratiquement subdivisées selon les communautés. Et ce qui est amusant, c'est qu'aux États-Unis, l'église, c'est le dimanche qui est le jour habituel de l'église, le jour de culte dominical, n'est-ce pas? C'est le plus grand jour de ségrégation raciale aux États-Unis. Les gens sont ensemble de lundi à samedi. Ils travaillent ensemble, ils font tout ensemble dans le même bureau, le même office, tout c'est pareil. Mais le dimanche, le noir va dans l'église des noirs, le blanc va dans l'église des blancs. Avec ces mouvements de télé-évangélisation des grands médias, les églises commencent à devenir un peu plus hétérogènes. Mais vous remarquerez ceci, si le pasteur est blanc, peu importe sa renommée, la majorité des membres de l'église sont blancs et il y a quelques noirs. Si le pasteur est noir, peu importe sa renommée, le pasteur est noir La majorité des membres de cette église sont noirs. Le pasteur est latino. La majorité de ses membres sont latinos. Spanish. Les églises s'identifient maintenant par rapport aux hommes, les gens qui les ressemblent. De la même couleur, même culture, et ils se mettent ensemble. Or, Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de race. Si les églises ne devaient que se réunir par rapport à Dieu, on trouvera en tout lieu des églises complètement hétérogènes, métissées, avec des gens de toutes couleurs, de toutes races, venant de toutes sortes de milieux sociaux, ils viendront se retrouver pour former l'église de Dieu. Et notre but, c'est de ramener les gens dans l'église selon la pensée de Dieu. Que le blanc ne fasse pas une église en visant que les membres de sa communauté, ou bien par rapport à la Belgique, par exemple, il y a des Wallons à côté, des Flamands à côté. Que le pasteur Wallon néerlandophone ne fasse pas seulement le programme parce que je suis un néerlandophone. Il faut élargir la vision. Où les immigrés font les églises des immigrés et les autochtones font les églises des autochtones. Non. Chaque être humain a besoin de Dieu. Et s'il se trouve que la révélation que la personne a besoin se trouve entre les mains de quelqu'un qui est d'une autre ethnie, d'une autre origine sociale ou bien d'une autre race, on ne doit pas lui en priver et lui faciliter la tâche dans sa langue si possible, pour que cette personne s'approche de Dieu et apprenne les mystères de Dieu au travers de l'Église. Chaque homme et chaque femme doit se sentir être entouré des frères et sœurs de l'Église, sans regarder la couleur de la peau, sans regarder la condition sociale, sans regarder les origines de cette personne. Nous avons trop nos yeux fixés sur les hommes maintenant, et même sur les pasteurs, sur les leaders, pour essayer de nous identifier par rapport à l'Église. Mais nous ne regardons même plus à Dieu. Quand Jésus appelle, il appelle tout le monde. Venez, sortez du monde. Sortez du système français, sortez du système américain, sortez du système belge, sortez du système saoudien, sortez du système égyptien, sortez du système brésilien, du système italien. Venez former mon église, ma maison à moi et entrez dans mon système avec mes lois, mes principes. La première loi qui règne dans ma maison, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et dans l'amour, il n'y a pas de distinction. Dans l'amour, il n'y a pas de ségrégation. Dans l'amour, il n'y a pas de favoritisme. C'est l'heure où l'Église de l'Europe, surtout, doit relever ce défi. Après des années d'histoire de ce vieux continent, les chrétiens qui sont en Europe doivent donner une nouvelle face à l'Église. L'Église doit avoir un nouveau visage. C'est ce que la politique n'a pas réussi à faire. Parce qu'il y a plusieurs arriérés des dossiers que la politique ou bien l'histoire n'a même pas voulu couvrir. Des choses qui sont encore comme des plaies béantes qu'on a couvertes. Il y a la Shoah. Il y a les 400 ans de l'esclavage. Il y a à peu près un siècle et un siècle et demi pour certains de colonisation. Et toutes ces choses ont créé des blessures entre les communautés et les sociétés des pays qui étaient autrefois des pays d'où venaient les esclaves ou bien les colonies avec leur métropole. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons des citoyens égaux par rapport à la loi dans ces mêmes pays. Et il église sur le cadre idéal pour manifester que la société européenne peut vivre en harmonie, dans la paix, dans la joie, dans le respect mutuel, régi par la loi de l'amour. Et l'Église de Dieu, qui a été appelée du monde, qui a été appelée des nations, doit s'identifier par rapport à Dieu pour faire ce que la volonté de Dieu. Dans l'ensemble des personnes appelées hors du monde pour appartenir à Dieu. Les personnes appelées hors du péché pour appartenir à Dieu. Les personnes qui étaient sanctifiées, mises à part pour appartenir à Dieu. Et ces gens s'identifient à Dieu. C'est ça la définition de l'Église. Le deuxième point, c'est l'origine de l'Église. L'Église, comme je l'ai dit auparavant, vient de la pensée de Dieu. Avant la fondation du monde, le Seigneur avait pensé l'Église. Il avait prévu de faire l'Église, de faire la naissance de l'Église, de permettre qu'un jour qu'il y ait les hommes de toute race qui viendront s'assembler sous l'autorité de son esprit, dans le nom de son Christ. Et dans sa pensée, Dieu a commencé à travailler depuis l'éternité et il a travaillé dans l'histoire avant même que l'Église soit manifestée sur la terre. Et Jésus-Christ est l'auteur de l'Église. Dieu avait cette pensée, mais pour que l'Église, des gens de toute race, de toute tribu, puissent se rassembler pour adorer le seul et le Dieu unique dans l'égalité, il fallait que quelqu'un vienne mettre cela en œuvre. Il fallait que des barrières qui étaient érigées entre les nations, les sociétés puissent être renversées. Ça ne pouvait pas se faire du coup sans que quelqu'un vienne préparer le terrain, accomplisse l'œuvre qui pouvait renverser le mur de séparation. Et il fallait même la nation, la race des hommes qui était entrée en conflit avec le ciel à cause du péché d'Adam, que la race des hommes soit réconciliée avec le trône de Dieu, le trône de sainteté, de justice. Et il fallait que quelqu'un vienne faire cela, ce travail de réconciliation. Les hommes entre eux et puis les hommes avec Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui a rendu cela possible à cause de son œuvre de la croix de Golgotha. À la croix, Jésus-Christ s'est écrié « Tout est accompli ». La dette avait été payée. Pour permettre à Dieu de nous regarder d'une manière favorable, il a versé son sang pour que les hommes et les femmes de toute origine puissent se rassembler dans l'unité devant la présence de Dieu. Parce que dans l'ancien temps, on ne s'approchait pas de Dieu de la même manière. Soit qu'on était juif, soit qu'on était romain ou grec ou français. Le monde était divisé en deux. Il y avait d'un côté ce qu'on appelait le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham, les Hébreux, et par extension qu'on a appelé plus tard les Juifs. Et de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait les païens, les gentils. C'est-à-dire les Grecs, les Romains, les Phéniciens, les Perses, les Assyriens, tous ceux qui n'étaient pas Juifs faisaient partie de ce qu'on appelle les gentils. Et ce n'est qu'aux Hébreux que Dieu avait donné sa loi, sa parole. C'est eux qui avaient le droit de citer en Israël le pays que Dieu avait choisi, donné à leurs ancêtres et qui leur était légué par la promesse, la prophétie de Dieu. C'est ce qu'on appelle la terre promise. Et Dieu avait chassé les habitants qui étaient là avant eux et Dieu les avait établis. Ils étaient les gardiens de la loi, des principes de Dieu. Et l'Église était basée, la communauté des gens, ce n'était pas encore l'Église. La communauté des Hébreux, des enfants de Dieu à cette époque, s'est différenciée de tous les gentils, de tous les peuples qui adoraient les idoles, qui adoraient les créatures, au lieu d'adorer le Créateur. Le peuple juif était le seul qui adorait un Dieu invisible et qui n'avait même pas le droit de faire une représentation de ce Dieu-là. Il y avait des gens qui avaient la notion d'un Dieu unique également. Mais souvent, il y avait toujours des représentations. Eux, ils n'avaient même pas le droit d'avoir une représentation de ces dieux. Paul se promena un jour dans une des cités de l'Empire en ce temps-là. Il a trouvé un autel avec une inscription. Il y avait un temple, il y avait plusieurs dieux, plusieurs représentations. Mais cet autel-là, il n'y avait pas de représentation dessus. C'était écrit seulement à un dieu inconnu. Et Paul dit, « Ce que vous reverrez sans le connaître, je suis venu vous l'annoncer. » Les dieux des Juifs, les dieux d'Abraham, d'Isaac, qu'on ne pouvait pas représenter. Et le Seigneur, dans sa grâce, a permis que Jésus-Christ, son Fils, paye le prix à la croix pour que le mur de séparation soit effacée. Quand on s'approchait du temple de Jérusalem, le temple était divisé en deux parties. Et puis il y avait la clôture du temple, qui était considérée comme la troisième partie. La première partie, quand on entrait dans le temple, la première partie, c'est ce qu'on appelait le lieu saint. En ce lieu, le sacrificateur y entrait chaque soir pour présenter le parfum dans l'autel de parfum pour les services du culte habituel le soir à l'heure de l'offrande du soir. Et dans l'autre partie, la deuxième partie du temple, le saint des saints, qu'on appelle également le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur en exercice qui y entrait. Et c'est là une fois l'an, une fois par an. Il entrait pour présenter le sang du peuple sur le propitiatoire, c'est-à-dire sur le couvercle, c'est-à-dire sur le couvercle de l'arche de l'Alliance qui se trouvait là dans le lieu très saint. Il entrait là-bas pour présenter le sang, pour que le Seigneur puisse voir le sang, considérer qu'une vie a été payée pour le péché du peuple et que Dieu pardonne au peuple jusqu'à la présentation de l'offrande de l'année prochaine. Les péchés commis pendant une année, il devait attendre quand le sacrificateur présentait son offrande, présentait le sang. Quand Dieu voyait le sang, si Dieu pardonne le péché, le peuple était encore tranquille, il pouvait se reposer pendant une année. Et ça ne se faisait qu'une fois par an. Et quand on sort du temple proprement dit, il y a également la clôture du temple, le parvis, ce qu'on appelait le parvis. Et dans le parvis était divisé en deux. Il y avait le parvis des hommes, qui était plus proche tout autour de l'autel, n'est-ce pas? L'autel des sacrifices. Et puis il y avait également ce qu'on appelait le parvis des femmes. Les femmes avaient droit également d'entrer dans le temple, dans la clôture de l'enceinte, qui était considérée pour certaines personnes la première partie du temple. Mais elles avaient leur endroit qui leur était réservé. Elles ne pouvaient pas se mélanger avec les hommes. Elles n'avaient pas ce privilège-là. Elles restaient au coin, le parvis des femmes. Et dès qu'on sort de ce parvis-là, aucune personne, aucune race étrangère n'avait le droit de pénétrer dans le temple, dans l'enclos, dans l'enceinte du temple. Si un Romain, un Grec, peu importe qui tu es, peu importe ton race sociale, si tu pénètres dans le temple, la loi de Moïse disait que cette personne devait être punie de mort. On te jugeait et on te lapidait. Personne en venant adorer le Dieu d'Israël, parce qu'après avoir comparé les religions ou bien les philosophies ou bien les manières de célébrer, on pouvait se convaincre. Non, le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Pharaon l'a reconnu et Nabucodonosor l'a reconnu à l'époque de Daniel également. Et plusieurs personnes avaient reconnu que le Dieu d'Israël, ils avaient même confessé que c'est le véritable Dieu. Mais quand on venait pour adorer ces dieux-là, tant qu'on est étranger, on n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Dans la première partie du temple, dans le lieu saint, entre le lieu saint et le lieu très saint, on ne voyait même pas ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y avait un grand rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Dans ce rideau-là, il y avait des chérubins qui étaient dessinés dessus, qui montraient que le chemin vers le lieu très saint était fermé. Rappelez-vous, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, quand il les a chassés, il a mis également les deux chérubins pour empêcher Adam et Ève de revenir. C'est pareil. Mais quand Jésus-Christ est mort, il déclare « Le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. » La gloire de Dieu qui était cachée dans les lieux très saints a été accessible non seulement au sacrificateur, le suivant sacrificateur qui pouvait être proche, non seulement à cette marmaille des sacrificateurs des Lévites, mais également aux hommes d'Israël, pas seulement aux hommes, mais également aux femmes d'Israël, pas seulement aux femmes d'Israël, même en dehors du temple, on pouvait directement voir ce qui était caché dans les lieux très saints et avoir accès à la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir par son œuvre de la croix, en renversant, en brisant le mur d'iniquité. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Quand le souverain sacrificateur mettait le sang sur le propitiatoire, le peuple ne se réjouissait pas, le pardon ne se faisait pas d'une manière automatique. On devait être sûr que celui à qui on a demandé pardon a écouté et accepté de nous pardonner.
Parce que dans sa présence, on n'entre pas n'importe comment. Les souverains sacrificateurs entraient en tremblant. Et on avait mis tout autour de ses vêtements. Le Seigneur avait ordonné qu'on puisse coudre des petites clochettes sur le bas de ses vêtements. Quand il bougeait pour faire les services, on entendait le bruit, les clochettes bouger. On savait qu'il était encore en vie. Et il y avait une corde qui était attachée à sa jambe. Et cette corde traînait jusqu'en dehors du temple. De sorte que s'il entrait là-bas, avant d'entrer, les souverains sacrificateurs devaient se purifier lui-même de tout péché. Il offrait les sacrifices, comme dit Hébreu, non seulement pour les péchés du peuple, mais également pour ses propres péchés. S'il entrait avec ses péchés, il ne s'était pas confessé, il n'a pas bien fait les ablutions. Et si on le frappe, il meurt dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Personne ne peut entrer, parce que dès que tu entres, tu meurs également. C'est pour cette raison-là que on avait attaché une corde autour de son pied et cette corde traînait jusqu'en dehors du temple. Si la personne ne bouge plus, on n'entend plus de bruit, on bouge la corde. Si le sacrificateur remet son pied, sa corde, ça montre qu'il est encore vivant. Mais s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, on comprendra que Dieu l'a déjà frappé les morts. On le tirait seulement doucement avec cette corde-là pour le sortir du temple. Mais le peuple ne se réjouissait que quand le sang était versé. À la croix, à Golgotha, Jésus a versé son sang. Mais on déclare qu'il ne s'est pas arrêté là. Il s'est présenté dans le tabernacle, pas le tabernacle fait des mains d'homme. Car quand Moïse avait construit le tabernacle, la tente qui devait voyager avec le peuple de Dieu, dans le désert, Dieu lui avait dit, « Prends garde de faire tout selon ce qui t'a été montré dans le ciel. » Dieu lui avait montré une vision de ce qui était dans le ciel, le vrai tabernacle de Dieu qui devait recevoir le sang de l'agneau de Dieu. Et en attendant, pendant cette période de transition, Dieu lui a dit, « Fais également un tabernacle similaire, un modèle réduit pour la terre, que vous transporterez de lieu en lieu pour m'adorer. » Et que Salomon, après avoir construit son temple, il a mis maintenant ce tabernacle-là dans le lieu très saint. C'est par ce tabernacle que Jésus s'est présenté pour présenter son sang précieux. La Bible déclare que c'est directement devant la présence de Dieu, dans le tabernacle de Dieu. Après sa mort, il est monté devant la présence du Seigneur. Pas pour y rester, pour toujours, mais il a présenté son sang. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand les sacrificateurs présentaient le sang dans le temple et que Dieu a grillé, la colonne des nuées descendait d'une manière visible sur le lieu très saint où étaient les sacrificateurs et ça remplissait tout le temple. Dès que le peuple d'Israël voyait la colonne descendre, ils poussaient tous des cris de joie. Ils célébraient, ils dansaient, la fête commençait parce qu'ils se disaient « Dieu a pardonné nos péchés ». C'était un peuple qui était toujours entouré des ennemis, donc leur existence dépendait de leur relation avec Dieu. Et comme le péché met une inimitié entre eux et Dieu, s'ils n'étaient pas en accord avec Dieu, ils savaient qu'un malheur pouvait leur arriver. Et ça a été arrivé à plusieurs fois dans l'histoire. Ils ont quitté l'esclavage de l'Égypte, mais en désobéissant à Dieu, ils se sont retrouvés encore à Babylone, en captivité. Selon que Dieu avait dit, vous ne m'obéissez pas, je vous chasserai loin de ce pays que je vous ai donné. Et chaque fois qu'ils obéissaient et revenaient dans les normes, Dieu, dans sa miséricorde, pouvait les ramener. Et les enfants d'Israël étaient là. Quand tu vois la colonne des nuées, ça veut dire que maintenant c'est fait. Dieu nous a pardonnés. Et quand Jésus-Christ a offert son sang, il fallait attendre un signe qui manifestait que oui, maintenant, c'est la naissance officielle d'une communauté que Dieu a pardonnée. Une communauté qui attendait, qui peuvent adorer Dieu librement, qui peuvent former une société hétérogène des gens de tous lieux. Qui n'a plus de différence raciale. Le prix a été payé, mais le ciel n'a pas donné son accord. Le ciel a donné l'accord quand la colonne des nuées descendait. Et pour Jésus-Christ également et l'Église, avant sa naissance, la colonne des nuées devait descendre. Et à peu près, au 50e jour exactement, après la Pâque, le jour de la Pentecôte, la colonne des nuées, qui est le Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, est descendu pendant que le peuple de Dieu priait sur la chambre haute. Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit. Et il devait attendre. Le Saint-Esprit pouvait être envoyé que si l'œuvre de la croix avait été accomplie selon la volonté de Dieu et si le sacrifice avait été accepté devant le trône de Dieu. Car si on coupait l'agneau d'une manière qui n'était pas adéquate, Si c'était un agneau étouffé, Dieu n'acceptait pas ce sacrifice. Si c'était un agneau avec un défaut, Dieu n'acceptait pas ce sacrifice. Mais Jésus était écrit, était un agneau sans défaut. Jésus, Dieu avait mis ses lois aux Lévites en préfiguration de ce qu'il fera avec son Christ. Et étant un agneau sans défaut, et le sacrifice étant fait selon l'autel où il a été sacrifié, c'est à Golgotha. Et le sacrifice étant fait en accord avec la volonté de Dieu, à la Pentecôte, Dieu a montré qu'il était d'accord avec le sacrifice de son Christ. Et il a envoyé le Saint-Esprit qui est descendu comme la colonne de nuée. Il y avait des langues de feu qui se sont posées sur la tête de chacun d'eux. L'Esprit est mis à se mouvoir dans chacun d'eux. Ils se sont mis à en parler en d'autres langues et le lieu où ils étaient a tremblé. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour officiel de la naissance de l'Église sur la terre. L'Église de Dieu. Et l'Église a commencé à agir. Dieu a appelé les gens de toutes les races, de tous les peuples qui viennent maintenant, qui lui appartiennent. Et sous la coupe de l'Église, ces gens ont le droit d'adorer Dieu librement en esprit et en vérité. Ils peuvent appartenir à toutes les nations, mais dès qu'ils viennent, ils entrent dans l'Église, ils appartiennent à une nouvelle institution qui est la plus puissante que Dieu a créée sur la terre. Et jadis, Dieu a appelé les gens en préfiguration de ce qu'il ferait avec l'Église. L'appel d'Abraham dans Genèse 12, quand Dieu appelle Abraham de sortir, là déclare, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. L'Éternel Dieu dit à Abraham, dans Genèse 12 peut aussi être traduit par l'Éternel Dieu avait dit à Abraham. Parce que Dieu a appelé à Abraham, parce que quand il lui parlait, Abraham était, dans Genèse 12, Abraham était à Charan. Mais Dieu ne l'avait pas appelé à Charan, Dieu l'avait appelé en Ur en Chaldée. Donc l'Éternel Dieu avait dit à Abraham, donc quand il était encore en Ur en Chaldée, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dieu a fait sortir Abraham du monde, de son pays, pour qu'Abraham devienne le représentant de Dieu. C'est comme un fleuve, l'humanité, le fleuve de l'humanité est fuyé. Dieu en détourne un bras, il détourne comme une rivière de ce fleuve. Il purifie cette rivière pour que la rivière revienne vers le fleuve et influence le fleuve avec son eau pure. Dieu a détourné une branche de l'humanité au travers d'Abraham pour l'instruire, l'équiper dans son alliance, pour qu'Abraham vienne instruire. Il a dit, tu garderas mon alliance pour toi et tes descendants. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Donc c'est au travers de toi que les gens vont connaître ma vérité. Abraham était devenu le détenteur de la vérité, du culte du vrai Dieu, le premier monothéiste reconnu, Abraham. Lui qui était un idolâtre, il venait de la vie de Ur, où on adorait la lune et les étoiles. Et de cette vie d'idolâtre, c'était sûrement un divinateur, c'était sûrement quelqu'un qui s'adonnait aussi à l'astrologie, comme c'était dans son époque. Et il regardait la lune et les étoiles, là les fouilles archéologiques, l'histoire l'a prouvé par rapport à la ville de Ur en Mésopotamie, n'est-ce pas? Et Abraham est devenu un adorateur du Dieu unique et invisible. Et il a instruit Isaac, son fils, et Isaac a instruit à Jacob, Jacob à ses descendants. Eux, ils ont été instruits selon la volonté de Dieu pour influencer le monde. Deuxième exemple, c'est également l'appel de Moïse et du peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour leur donner la loi, pour les équiper, afin que l'Égypte et le monde entier soient influencés par la loi, la parole de Dieu, au travers de ce peuple que Dieu a mis à part. Et maintenant, c'est l'Église que Dieu appelle hors du monde. Ce n'est pas hors de Ur en Chaldée. Ce n'est pas hors de l'Égypte comme avec le peuple d'Israël. Mais maintenant, c'est hors du monde, de toutes les nations du monde, de toutes les coutumes du monde. Dieu les appelle, les équipe, pour qu'à leur tour, qu'ils aillent maintenant en retour influencer le monde pour Dieu. Et le peuple d'Israël, de ce moment-là, son règne en tant que peuple qui avait la mission d'instruire le monde qui concerne la volonté, la conscience de Dieu, ce peuple-là, cette mission a été stoppée. On a mis une pause à cette mission. On a ouvert une nouvelle parenthèse. Cette parenthèse, c'est avec l'Église. Et c'est l'Église qui a la mission parce qu'Israël a été aveuglé et il n'a pas reconnu le Christ. Or, l'Église, c'est devenu même le siège du Christ, les rassemblants de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ceux qui ont cru que Jésus est le Christ de Dieu. Et il y a des Juifs là-dedans, les premiers. Les gens croient que l'Église est composée de... Non, les premiers chrétiens sont des Juifs. Jésus n'a pas été prêché à Rome ou bien en Grèce ou bien en Amérique, non. Jésus a prêché ses contemporains, les Juifs, les premiers chrétiens. ceux qui ont parlé en langue, ceux qui ont fait des miracles, qui nous ont transmis l'évangile, ce sont les juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église est composée et des juifs et des païens, ce qu'on appelait anciennement païens et des gentils. Tous nous formons l'église des dieux. Aujourd'hui, on parle de juifs évangéliques, quelque chose du genre. Il y a un terme qu'on utilise actuellement, des juifs évangéliques, pour montrer des juifs qui sont donnés au christianisme. Ça n'a pas lieu d'être. Nous sommes l'église. On n'a pas besoin d'être un juif évangélique. On n'a pas besoin d'un mélange. Paul n'a pas parlé du judaïsme évangélique. Et aujourd'hui, c'est à la mode, surtout là où je suis en France. Et un peu partout aux États-Unis, un peu promulgué par des prédicateurs américains. Nous sommes l'église, juifs, gentils, tous appartenons à l'église. Si les coutumes juives avaient encore lieu d'être à l'église, Paul se serait donné beaucoup d'efforts pour nous le communiquer. Parce que même les pierres, les autres, aucun n'a été zélé dans le judaïsme comme Paul l'a été. Mais quand nous lisons les écrits de Paul, c'est lui qui s'est mis avec force à combattre tout le comportement judaïque dans l'église, lié à la religion. Je parle du judaïsme comme une religion. Tout le comportement lié à la religion juive, Paul a été le premier à le combattre. Quelquefois, il faisait des consensus pour éviter qu'il soit lapidé, pour éviter la colère des juifs. Quand il allait par exemple dans le temple, il devait se raser la tête avec celui qui était à côté de lui. Ça ne l'a même pas épargné, il a été toujours arrêté même après cela. Mais l'hypocrisie, mélanger les choses de Dieu, les choses de la nouvelle alliance, la nouvelle révélation, avec les interdictions, les coutumes, les us liées aux traditions juives, Paul a combattu cela et s'est resté dans les épîtres intégristes pour cela. Lisons les épîtres romains, lisons les épîtres des Galates. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu a tendance à... L'homme aime toujours ce qui est nouveau, ce qui est neuf, ce qui sonne étrange à ses oreilles. Or, le Seigneur a simplifié la vérité. Elle déclare, la vie est simple, mais c'est l'homme qui se cherche bien des calculs, dit le proverbe. Et le Seigneur a voulu que son église se manifeste, parce que l'église avait une mission.